Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Les réseaux sociaux font pleinement partie de nos vies. Ma vie sur les réseaux sociaux, c'était le thème d'un appel à projet de l'Atelier de l'audiovisuel public qui rassemble les groupes de médias publics français, dont RFI. Aujourd'hui, Élodie Font vient nous parler de Double Vie, un podcast fruit de 6 mois d'enquête sur ce que l'on cache sur les réseaux sociaux pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais tout de suite, on va se plonger dans le téléphone portable des jeunes de 18 ans.
On a vu avec la marche pour le climat et tout, les jeunes, c'est eux qui doivent changer.
J'ai des abonnés, 24 000. On s'imagine pas qu'on a 24 000 personnes derrière un écran qui regardent.
Je déteste les journaux qu'on doit s'abonner pour pouvoir s'informer. Je trouve pas ça normal, en fait.
Stendhal. Il n'y a aucun auteur qui, pour moi, est supérieur.
Je suis une femme, j'ai un corps de femme, mais je connais pas mon corps et c'est ça qui est un peu surprenant.
Quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, mais je l'ai pris comme une vraie chance de pouvoir faire des actions, aider les gens concrètement.
Pendant mes 22 ans, j'ai envie de, moi, faire genre 50 pays. Parce que sinon, je sais pas, j'aurais vécu pour rien.
Bon, ça peut paraître paradoxal, mais j'apprends plus en dehors de l'école qu'à l'école. Pourquoi ? Parce que je le fais avec la passion.
L'Atelier des médias. Bonjour Sherazade Chikaïk.
Bonjour Steven.
Vous avez réalisé avec Antoine Tireur un projet intitulé « Dans ton tel », produit par Upian. On vient d'en entendre un extrait. Alors le concept, ce sont des petites vidéos de 5 minutes, c'est bien cela ?
En moyenne.
Des interviews face caméra, où l'interviewé regarde, nous spectateurs. Ce sont des jeunes qui ont 18 ans, ou autour de 18 ans, et l'idée c'est de savoir comment ils utilisent leur téléphone portable. Pouvez-vous nous expliquer d'où est partie cette idée en fait ?
Il y a une longue réflexion derrière ça et c'est né d'abord de mon expérience en tant que journaliste et aussi en tant que journaliste qui intervient beaucoup dans des classes auprès de jeunes adultes ou adolescents. Et donc, très souvent, j'ai entendu beaucoup de fantasmes, d'idées reçues sur la manière dont ces jeunes pouvaient utiliser leur téléphone. Et c'était pas du tout ce à quoi j'étais confrontée moi quand je l'ai rencontré. J'avais l'impression de découvrir à chaque fois des nouvelles manières de s'informer, d'apprendre des nouvelles applis, de voir aussi des nouveaux chemins d'information qui étaient très différents des miens. Et donc c'était une découverte permanente et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le documenter un jour ou l'autre. Antoine, qui est donc le co-réalisateur de cette série, avait au même moment que moi très envie de faire du documentaire et donc on s'est retrouvés sur cette idée d'aller documenter ces pratiques.
On va y revenir justement, essayons de recontextualiser. Ce projet, il a vu le jour dans le cadre de ce qu'on appelle l'Atelier de l'audiovisuel public. C'est une action conjointe des entreprises de l'audiovisuel public français, dont RFI. Le thème, c'était « Ma vie sur les réseaux sociaux ». Et là, on se rend compte qu'on va un petit peu plus loin, on est dans la vie tout court.
Oui, c'est assez vrai. En tout cas, nous, quand on a vu passer cet appel à projet, on l'a lu en se disant « mais on coche toutes les cases, donc il faut qu'on y aille ». Et oui, c'est la vie tout court parce que on aborde effectivement un certain nombre d'usages et de pratiques, mais au-delà des aspects techniques et des différentes applis qu'on peut voir défiler dans les téléphones de ces ados, on se rend d'abord compte qu'en fait, ce sont des jeunes qui se construisent et qui du coup réfléchissent au monde qui les entoure, se posent plein de questions, ont parfois envie d'agir et leur téléphone peut leur permettre un certain nombre de choses très concrètes dans leur vie du quotidien.
Il y a un portrait qui m'a particulièrement touché ou en tout cas qui a attiré mon attention ici pour l'Atelier des médias sur RFI, c'est celui de Josia qui a 18 ans et qui a sa façon bien à elle de s'informer. On l'écoute.
Direct, j'ouvre et je vois un média, enfin une information. Et ce soir, comme c'est Facebook, j'utilise que pour ça en fait. C'est là où je m'informe le plus. Il y a des infos vraies, il y a des infos fausses, il y a des putaclics, il y a un peu de tout en fait. J'ai vu un truc attentat Sri Lanka avec le nombre de blessés de mort et du coup j'ai voulu me renseigner plus. En général, je n'ouvre pas. Je regarde la photo et le grand titre. Je ferme et je vais sur Internet. Et là, je m'informais sur tout. Je vais essayer de voir pourquoi ils ont fait ça, quand, combien de victimes, combien de blessés. Genre là, j'étais sur LCI. Je vais tout lire. Ensuite, la minute parce que j'ai confiance aussi. Et un peu sur tous les sites. Jusqu'à me faire mon propre avis, ma propre opinion, en fait. Après, même s'il y a un site qui me paraît vrai, mais qui, au final, est faux, je vais le remarquer parce que c'est des choses complètement différentes. Sur un site et les autres, ils disent tous le même, ce sera forcément pas un bon site, en fait. Quand je trouve que c'est pas assez vrai, je clique pas, en fait. Mais là, je sais que ça vient de Mediapart, donc je clique, c'est obligé. Mais
Ça, par contre, c'est trop chiant. S'abonner. Même s'ils disent premier mois gratuit, enfin. Je dois pas payer pour m'informer. Enfin, il y en a qui donnent des journaux dans la rue comme ça, et il y en a qui font payer. Enfin, autant rester sans rien savoir sur le monde. Si je comprends bien, faut même payer pour pouvoir être au courant. Je trouve pas ça normal.
C'est pas normal de payer pour s'informer.
Mais ce qui est intéressant avec Josia, c'est qu'en fait, elle le dit très naturellement, mais on se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui pensent la même chose que Josia et qui ne trouvent pas normal de payer pour s'informer. Donc c'est une vraie question en fait, et c'est ça qui est intéressant dans ce moment, c'est qu'elle soulève un sujet qui du coup forcément intéresse beaucoup les journalistes, parce que c'est notre avenir, donc c'est notre métier dont il est question. Donc voilà. Mais oui, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'on doit payer pour s'informer à l'heure d'Internet où on a accès à beaucoup de savoir en ligne de manière gratuite pour beaucoup de contenu? Donc,
ce qui est intéressant aussi, c'est que se dégage une certaine maturité de la part de tous ces jeunes-là que vous avez interviewés. Pas toujours où on l'attend, mais qu'ils ont des choses à apprendre aux adultes sur les choses de la vie, en fait. Et qu'il ne faut pas les regarder de haut, en fait, d'une certaine façon. Bastien, par exemple, 17 ans, qui fait des sketchs pour ses 24 000 abonnés sur TikTok. Alors, il essaye de garder la tête froide, mais quand on entend parler, c'est un entrepreneur, en fait.
Bien
il
sûr.
Parle de contenu, il se sent obligé de produire pour sa communauté, de faire des concours, etc. Ouais, professionnel en fait.
Et c'est très exigeant en fait, ce que fait Bastien, et demande beaucoup beaucoup de rigueur et d'investissement, et donc c'est pas du tout quelque chose qu'il fait de manière voilà, sans y réfléchir. Au contraire, il prend beaucoup de temps à réfléchir à ses clips, à la manière dont il va les monter, à la manière dont il va les diffuser derrière, aux différents hashtags qu'il va pouvoir mettre dessus pour en faire la promotion. Donc tout est réfléchi. Et du coup, ça prend une autre dimension que des jeunes qui font les rigolos devant leur téléphone, quoi.
Alors, dans Tontel, c'est pour l'instant 8 vidéos de 5 minutes qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous en avez d'autres en stock ?
Alors, pour l'instant, non, mais on serait très partant pour une autre saison, et on serait même très partant pour une saison qui pourrait aller explorer d'autres tranches d'âge. Parce qu'on se dit que ça pourrait être assez intéressant d'aller dans le tel justement des plus âgés, des parents, voire des grands-parents, ça pourrait être assez fun. Donc c'est pas prévu, mais pourquoi pas.
Merci beaucoup Sherazade Chekaïk, et bravo à vous et Antoine Schirer, avec qui vous avez réalisé Dans ton tel, produit par Rupian, avec le soutien de l'audiovisuel public français. À bientôt.
Merci, à bientôt.
http://atelier.rfi.fr.
Si je vous dis influenceur sur les réseaux sociaux, ça vous parle ? Le mondoblogueur ivoirien Benjamin Yoboué ne peut s'empêcher de rire de ce phénomène bien actuel.
Ma mère a tendance à plaisanter sur la politique. Pour elle, chaque président est lié à une marque qui le symbolise. Par exemple, elle attribue toujours des phénomènes comme l'arrivée des cabines téléphoniques à tel parti politique ou à tel président. Je ris toujours en l'écoutant. Hier, elle attire mon attention sur un phénomène particulier, l'avènement des coachs de vie et des influenceurs 2.0. Ils sont légion sur la toile ivoirienne, et pas que. Comme vous, j'en connais un bon nombre. Certains se sont rendus célèbres grâce à des vidéos marrantes ou grâce à des polémiques. À défaut d'avoir toujours des compétences, puisque ce n'est pas forcément le cas, l'influenceur se doit au moins de fédérer autour de lui. Sans grosse communauté d'abonnés, pas d'affluence. Il faut tenir la distance aussi, et l'influenceur du moment peut vite être oublié et remplacé par un autre.
Qui sont ces influenceurs en herbe ? C'est notre grande enquête, et elle est grand format, signée Mathieu Poissonnet, Stéphane Deperroy et Sébastien Madoise.
En regardant la télévision l'autre jour, j'ai vu un reportage sur un rassemblement d'influenceurs dans un quartier chic de la capitale française. C'était pour la plupart des adolescents. Et je me marrais de certaines réponses données aux journalistes qui les questionnaient. Cet adolescent n'a finalement jamais parlé de ce qu'il voulait transmettre, des valeurs sur lesquelles il voulait influencer. Historiquement, l'influenceur, c'était un personnage populaire, un politicien ou un artiste. Son expérience, son œuvre, sa connaissance lui valaient d'être respecté, écouté et donc suivi. Son propos se devait être le plus vrai possible, authentique. C'était la base de sa crédibilité. Mais depuis les réseaux sociaux, les influenceurs n'influencent plus forcément par la qualité de leurs discours. Leur influence est centrée sur leur capacité à divertir, leur aptitude à s'aligner aux désirs de leurs fans. Il me semble important que chacun sache bien quel est son rôle. Blogueur, journaliste, entrepreneur, coach ou influenceur, Si des gens nous suivent, cela veut dire que nous avons probablement un impact sur eux, sur leurs décisions. Il faut que nous en ayons conscience et que nous nous questionnions sur notre responsabilité quand nous publions ou postons une vidéo. Et dernier point, il est important pour chacun d'entre nous d'accepter dans l'humilité les critiques des abonnés. Cela fait partie du jeu. Qui aime bien, châtie bien.
Mondoblog.org.
C'était les bons conseils de Benjamin Yoboué du blog Pigiste Allemand Vôtre. Rendez-vous sur mondoblog.org pour entendre nos blogueurs francophones donner de la voix sur les sujets qui les inspirent. On a maintenant rendez-vous avec Élodie Font et son projet Double Vie.
RFI.
Plus j'ai d'abonnés, plus je fais attention.
Il y a deux identités et c'est pas la même personne.
J'ouvre beaucoup ma gueule et je veux que ça n'engage que moi.
Mais quelque part, il y a un écran entre Cécile Duflo et moi. Et Cécile Duflo forme écran.
C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place. Réussir à maîtriser notre image tout en étant pas artificiel.
Ouais, en fait, Internet, tu vois, c'est vraiment tout est possible, quoi.
Il y avait pas de filtre, du coup.
Je m'étais quand même un peu laissé aller, à mon avis, dans ce double jeu.
C'est Twitter qui va juger, finalement.
Je sais même pas combien de gens seraient prêts à me tuer si jamais je donnais mon adresse, en fait.
Se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie. Je trouve ça fou, quoi.
C'est totalement schizo.
Et j'ai eu une double vie comme ça, et sur Internet, et en vrai.
Et aujourd'hui, ben, en fait, je me rends compte que oui, je suis... En fait, ce personnage, c'est moi.
À suivre sur arteradio.com.
Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste et chargée de programme dans l'unité documentaire d'Arte. Alors si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous signez Double Vie, une série audio qui est produite par l'INA et diffusée sur Arte Radio. Le tout est accompagné de stories Instagram. Cela parle de nos identités multiples, de nos identités à la fois dans la vie réelle et dans la vie numérique. Et parfois nous en avons plusieurs dans la vie numérique. Pour cela, vous avez enquêté pendant 6 mois.
Six mois.
Donc 6 mois de travail intense, 6 mois d'interview pour rencontrer des gens et qu'ils vous racontent la façon dont ils utilisaient les réseaux sociaux au quotidien et l'impact que cela avait sur leur vie. Expliquez-nous comment est-ce que tout cela a démarré.
Ça a démarré pour répondre à l'appel à projet du service public qui concernait ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser cette idée d'identité sur les réseaux et le fait qu'on ne soit pas exactement les mêmes, on va dire hors réseau et sur les réseaux. D'ailleurs, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me disais, on n'est pas pareil dans la réalité et dans le virtuel, enfin je faisais le réel virtuel, cette distinction. Et en travaillant en fait sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus du tout parler de réalité et que le réel ce serait d'un côté et le virtuel de l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on dit sur les réseaux, c'est très réel. Et puis après, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des rencontres. Je crois que le premier que j'ai interviewé, c'est Dieu, qui apparaît dans le premier épisode.
Donc quelqu'un qui a un compte Twitter qui s'appelle Dieu Off.
Exactement.
Pour Dieu officiel. Une personne qui s'amuse chaque jour sur ce que dirait Dieu ou ce qu'on pense, ce qu'on pense là-haut. Voilà.
Et c'est un compte qui grandit à une vitesse folle parce que quand je l'ai rencontré donc en janvier dernier, il en était à 200 000 followers sur Twitter et là il en est à 500 000.
500 000 abonnés.
Donc 500 000 personnes qui le suivent. Et donc 500 000 personnes, c'est quand même assez dingue. Et moi, la question que j'avais envie de me poser, et de leur poser surtout, c'était, quand on a autant de gens qui nous suivent, c'est quoi l'impact sur la vie au quotidien? Est-ce que ça change quelque chose pour les gens quand ils rentrent chez eux, quand ils se couchent, quand ils éteignent leur téléphone? Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir autant de gens qui vous suivent?
Alors le premier des 5 épisodes de Double Vie s'intitule Métamorphose, célèbre sous pseudo justement ces gens qui décident de se créer ou de développer leur personnage en ligne. Et derrière Dieu officiel justement, qui a-t-il? C'est juste quelqu'un qui... C'est un hobby pour lui.
Alors lui, il parle carrément de travail. Parce que ça représente, d'alimenter ce compte, ça représente un mi-temps dans une semaine. Faut quand même se rendre compte de ce que c'est pour la vie des gens. C'est-à-dire, c'est pas juste, je fais 3 blagues, et puis il y a 3-4 copains qui sont au courant. Non, c'est vraiment une implication, parce que pour lui, c'est comme une espèce de mini-entreprise où il est le chef, en fait. il est le chef et donc il peut petit à petit faire grandir son entreprise, se demander justement comment la faire grandir et puis aussi se demander comment des gens pourraient se dire tiens ce gars est drôle et donc est-ce que je pourrais l'embaucher pour écrire des sketchs, voilà, ça pourrait aussi être ça. Donc lui c'est même pas un hobby, c'est beaucoup plus que ça. Monsieur le prof, qui a aussi 500 000 personnes qui le suivent sur Twitter, un peu moins sur Facebook, si je dis pas n'importe quoi, lui pour le coup il a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit sur son heure de pause le midi, puisqu'il est vraiment prof dans la vie, pour que tout ça fasse aussi partie de son travail et que quand il rentre chez lui le soir, il arrête.
Alors là, ce sont des gens ordinaires, mais vous avez aussi interviewé des personnalités comme Cécile Duflot, femme politique française, qui a été ministre de l'écologie en France. Pourquoi avoir sollicité des personnes comme elle, qui sont des personnalités publiques en fait, hein?
Parce que ça fait longtemps que je la suis sur les réseaux, qu'elle y était quand même avant beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Donc déjà, je trouvais qu'elle avait une légitimité pour parler de ce qu'elle était sur les réseaux, puisque ça fait très longtemps qu'elle y est.
Et que c'est elle-même qui prend en charge
Exactement.
Son compte Twitter, ce n'est pas juste une équipe de communication derrière.
Oui, alors qu'elle le dit, on lui a souvent conseillé de faire qu'il y ait des gens qui s'en occupent pour elle, mais elle s'est dit, non, c'est quoi l'intérêt d'avoir un compte en mon nom si ce n'est pas moi qui tweet ou qui met des posts sur Instagram. Et ce qui m'intéressait aussi avec son parcours à Cécile Duflot, c'est qu'elle a beaucoup été harcelée sur les réseaux. Et ça m'intéressait d'avoir une voix comme la sienne qui porte. Et j'avais envie de l'entendre, de savoir, même quand on est une personnalité politique, même quand finalement votre image ne vous appartient plus complètement, et ben justement, quel est l'impact du harcèlement sur des gens comme ça. Et j'avais un peu peur qu'elle dise non, et elle a dit oui assez vite. Et je trouve que vraiment, elle dit des choses... Il n'y a pas de langue de bois dans ce qu'elle dit. Enfin, elle a vraiment joué le jeu, en tout cas, de se dire « si j'accepte de témoigner, je témoigne pour de vrai ».
C'est maintenant le moment de faire une interview double vie d'Élodie Font. Quel était votre premier pseudo sur Internet?
Est-ce que j'ai eu un pseudo sur Internet? J'avais des adresses mail complètement débiles, dont je ne me rappelle pas bien. J'espère que je vais être meilleur public que ça dans les prochaines questions. Parce qu'en fait, ça m'a toujours fait rigoler sur les autres, mais moi, j'avoue que j'ai toujours été assez transparente.
Alors, vous êtes-vous déjà créé un compte anonyme sur un réseau social pour vous inventer un personnage?
Non, mais ça m'a donné envie, cette série. J'avais jamais réfléchi à ce point et je me suis dit, mais bien sûr que oui, il faut le faire. Donc, peut-être bientôt.
Êtes-vous satisfaite de votre identité en ligne?
C'est une identité de travail. C'est une identité de travail. Et puis, depuis 2 ans, parce que j'ai sorti un podcast là-dessus, c'est très orienté sur l'homosexualité et le genre. Et donc, j'ai une communauté autour de moi. Enfin, en tout cas, disons que moi, j'ai l'impression de lire beaucoup de choses autour de ça et d'en recevoir aussi. Donc, je dirais que c'est un compte pro et centré sur ma sexualité.
Un internaute français passe en moyenne 1h et 22 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Et vous?
Oh là là, mon Dieu, beaucoup plus.
Allez.
2 heures.
Ah, quand même.
Ouais. 2 heures, et je compte même pas mon écran. Mon écran, je sais pas, 10 heures, 12 heures, c'est horrible. J'ai l'impression de passer ma vie sur un écran. Non, je suis complètement addict à mon téléphone, aux grandes dames des gens qui m'entourent.
Allez-vous partager le podcast de cette émission, de cet atelier des médias, pour votre personal branding?
Oui, évidemment, je vais le faire, ouais. Je vais le faire parce qu'en plus, j'aime beaucoup cette émission, donc je suis hyper touchée d'y être. Et donc, ouais, je pense que je vais être fière de ça et je vais le mettre, très probablement.
Merci, Élodie Font. Alors,
merci.
Double vie, c'est la série audio en 5 épisodes, est en écoute sur le site d'Arte Radio et les applications de podcasting préférées. À bientôt.
À bientôt, merci.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Merci à Simon de Creuse qui a réalisé cette émission. Et bienvenue dans l'équipe à Colin Gruel qui nous rejoint pour 1 an et était à la baguette de Mondoblog Audio cette semaine. Un salut aux équipes de Mondoblog et aux Mondoblogueurs et Mondoblogueuses actuellement mobilisés à Conakry pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maracana. N'hésitez pas à partager cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.